Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Regard sur les défis de l'action humanitaire en cette fin d'année 2020 qui n'a pas manqué d'apporter son lot de difficultés et de crises. La pandémie qui non seulement a changé la donne pour les professionnels de l'urgence, mais fait de surcroît peser des dangers sur le modèle de financement de l'aide humanitaire internationale, ce alors que l'environnement sécuritaire se détériore pour les organisations non gouvernementales, comme en atteste l'assassinat de 9 membres d'ACTED en août dernier au Niger. À quoi s'ajoute la défiance croissante d'États souverains vis-à-vis des normes internationales d'engagement militaire et de respect des civils et la demande faite aux humanitaires de construire la paix, rôle qui n'est peut-être pas le leur. Quelle adaptation aux évolutions du monde pour l'humanitaire, c'est ce que nous allons voir avec nos invités par téléphone. Anne Sénéquier, médecin et co-directrice de l'Observatoire de la Santé à l'IRIS. Bonjour.
Bonjour, Marie-France
Chatin. Alain Boinet, fondateur de l'association humanitaire Solidarité Internationale et directeur du site www.defishumanitaire.com. Bonjour.
Bonjour, Marie-France Chatin. Bonjour, RFI.
Et en studio, Pierre Brunet, vice-président de Solidarité Internationale et écrivain, auteur, pour ceux qui nous intéressent aujourd'hui, d'Aider plus loin, 40 ans de crise, 40 ans d'action, qui retrace les 4 décennies d'action humanitaire de Solidarité Internationale, sorti récemment aux éditions Autrement. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
2020, annus horribilis pour le monde, avec une pandémie qui expose crûment les fragilités économiques, les inégalités sociales et les failles sanitaires, en particulier des pays du Nord, que l'on pensait épargnés pourtant par ces fractures. Arrêt du transport aérien, fermeture des frontières, désorganisation des circuits d'approvisionnement, logistique, confinement plus ou moins généralisé. Quel bilan, Pierre Brunet, peut-on faire de l'action humanitaire en cette fin d'année? Quel état des lieux peut-on faire de l'impact de la Covid-19 sur l'action humanitaire dans les pays qui sont votre terrain habituel? Et en quoi, finalement, la pandémie a-t-elle changé la donne pour les professionnels de l'urgence?
Alors, je vais faire un premier bilan rapide parce que chacun des aspects de ce bilan mériterait bien sûr d'être développé longuement. Ce qu'on peut dire pour résumer en une formule, c'est que je crois qu'à la fin de cette année 2020 et à l'orée de cette année 2021, l'humanitaire subit un effet ciseau assez terrible. On ne peut que constater l'aggravation des enjeux et des problématiques humanitaires et surtout l'explosion des besoins en assistance humanitaire. On pourra revenir sur les chiffres, avec en face une diminution des moyens, notamment des moyens financiers qui sont accordés à l'aide humanitaire en raison des conséquences économiques sur l'économie des pays donateurs, financeurs de cette aide humanitaire. Une véritable menace de plus en plus nette et persistante sur l'accès humanitaire, la sécurité des humanitaires, une politisation grandissante de l'aide humanitaire. Donc il y a un effet ciseau, si vous voulez, entre l'explosion des besoins humanitaires et les menaces qui pèsent sur les moyens de cet humanitaire et je dirais même sur le droit humanitaire international et sur les principes fondamentaux de l'aide humanitaire qui aujourd'hui est clairement menacée et remise en question.
Alors, vous nous avez fait la trame de l'émission, Pierre Brunet, merci. J'ai demandé à chacun de réagir. Anne Sénéquier, effet ciseau, explosion des besoins et diminution des moyens.
C'est vrai, quand on regarde un petit peu finalement tout ce vers quoi l'humanitaire tend, travailler sur la pauvreté, la sous-nutrition, les inégalités, tout ça, cette année est bien plus que magnifié. On a en plus une récolte 2020 au niveau agriculture qui s'annonce un petit peu difficile. Donc finalement, les besoins vraiment explosent. Et ce qui est particulier aussi dans cette pandémie, c'est qu'elle nous a donné le recul nécessaire pour mettre à jour une évidence que l'Occident avait du mal à voir depuis qu'il avait rompu l'équilibre avec le reste du monde. C'est-à-dire qu'il y avait un « nous » d'un côté, « eux » de l'autre. On avait un peu créé une sorte de bulle, une sorte de nouvelle normalité où ici, il était convenu qu'on pouvait vivre mieux en bonne santé et en sécurité. Mais cette année 2020, elle nous a montré que ce cocon, finalement, n'avait de la bulle que la transparence de l'illusion. Et aujourd'hui, on n'est plus dans l'humanitaire là-bas, mais on revient aussi sur une approche globale et mondiale des besoins, et on se rend compte, c'est ce qu'on a vu aussi pas mal, le retour de la mission France cette année sur les besoins autour de nous. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est important à souligner.
Vous écoutez RFI, géopolitique.
Approche globale des besoins, Alain Boinet.
Oui, concernant l'aide humanitaire et les crises, et particulièrement celle de la pandémie du coronavirus, j'appelle qu'elle est particulièrement douloureuse, dramatique pour les pays où les gens vivent parfois avec moins de 2 dollars ou 1 dollar par jour et par personne, et avec des systèmes de santé très réduits, l'absence de filets sociaux. Donc au fond, il faut bien voir quand même qu'on est, on n'est vraiment pas à égalité face à la crise, et c'est ainsi. Et peut-être pour mesurer l'ampleur des défis humanitaires auxquels on est confronté, le dernier appel des Nations Unies, l'année dernière, l'appel des Nations Unies concernait, pour l'aide humanitaire d'urgence, 168 millions de personnes. Cette année, c'est 238 millions de personnes. Et Marc Lowcock, qui est le secrétaire général adjoint en charge de l'aide humanitaire des Nations Unies, dit que pour l'essentiel, cette augmentation, elle est la conséquence, de la pandémie, c'est-à-dire que l'augmentation d'une année à l'autre, c'est plus 40% de gens qui sont vraiment tombés dans des situations d'urgence humanitaire. Si l'on prend les chiffres indiqués par le Programme alimentaire mondial, dont je rappelle qu'il a été d'ailleurs, il a reçu le prix Nobel de la paix à juste titre cette année, eh bien, il avait programmé une aide pour 138 millions de personnes cette année, et en fin d'année, on imagine qu'on va arriver à des besoins alimentaires d'urgence pour 270 millions de personnes, avec des risques de famine dans plusieurs pays, notamment par exemple au Yémen. Pour prendre l'exemple du Burkina Faso, du Sahel, les populations déplacées sont passées depuis le début de l'année, de 2 200 000 à 3 500 000 personnes, enfin 3 500 000 personnes ayant besoin d'aide humanitaire. Et donc en fait, l'enjeu majeur de cette pandémie, c'est que 2021 soit l'année d'un grand retournement, c'est-à-dire d'un effritement de 40 ans de progrès du développement. L'enjeu, il est là. Donc là, il y a un enjeu de mobilisation, de moyens pour éviter que cela se produise.
Alors, Pierre Brunet, Alain Boinet évoquait à l'instant les chiffres. Alors, on ne sait plus finalement... 238 millions de personnes qui, dans le monde, ont besoin de secours en 2020, mais peut-être davantage, 270 millions, avec oui. Répercussions sur l'année 2021, étant entendu, par ailleurs, qu'aujourd'hui, 70% des crises durent plus de 10 ans.
Oui, tout à fait. Oui, 70% des crises durent plus de 10 ans. Si on prend l'exemple de l'Afghanistan, par exemple, la crise afghane dure depuis plus de 40 ans. La République démocratique du Congo, ça dure depuis plus de 10 ans. Les ONG, maintenant, ont à prendre en charge à faire face à des crises humanitaires qu'on appelle des crises longues et complexes, où les phases de rétablissement, si vous voulez, sont percutées par des résurgences, des récurrences régulières de phases d'urgence aiguë dans les mêmes pays aux mêmes endroits. Donc les associations humanitaires ont à faire deux missions en même temps, c'est-à-dire à travailler au rétablissement tout en étant capable de réagir rapidement avec efficacité aux phases d'urgence aiguë qui reviennent des pays comme la Syrie, comme le Yémen, comme le Soudan du Sud, de la Somalie, la République centrafricaine, etc.
Et l'Éthiopie, avec la problématique du Tigré qui a ressurgi il y a quelques semaines.
Les Nations Unies, par exemple, si on parle du Tigré, font des plans pour accueillir jusqu'à 200 000 réfugiés du Tigré au Soudan. Il y en a à peu près 50 000 qui ont passé la rivière frontière avec le Soudan, alors que le Tigré abritait déjà 600 000 réfugiés érythréens et que le Soudan, de son côté, abrite déjà, de mémoire, à peu près 1 million de réfugiés africains venus des autres conflits. L'UNICEF a annoncé qu'au Tigré même, ils estimaient que 2,5 millions de personnes avaient besoin d'assistance humanitaire. Avec, et c'est un exemple intéressant, très illustratif de la politisation croissante et menaçante de l'accès humanitaire. Les autorités d'Addis Abeba en Éthiopie qui clairement affichent une volonté de contrôler l'accès humanitaire et l'action des humanitaires au Tigré. D'ailleurs, il y a une équipe des Nations Unies qui s'est fait tirer dessus en visitant un camp de réfugiés érythréens au Tigré. Donc c'est très illustratif du contexte d'urgence. Pour revenir sur Marc Laocoque que citait Alain, qui est le responsable effectivement des affaires humanitaires de l'ONU, il a déclaré que si on parvenait à passer l'année 2021 sans famine majeure, ce serait une réussite majeure. Donc je pense que ça permet de comprendre l'ampleur de l'enjeu des besoins humanitaires à ce moment.
Vous écoutez Géopolitique.
Alors, on reviendra bien sûr sur la question de la politisation croissante de l'aide, humanitaire. Je prévois de le faire un peu plus tard dans le déroulé de cette émission. Anne Sénéquier, je voudrais juste revenir sur la question de la pandémie. On évoque les risques de famine accrue en 2021, mais pour ce qui est de la contamination elle-même, on s'est étonné que l'Afrique résiste aux prédictions alarmistes de contamination. Vous qui êtes médecin, une explication ?
C'est vrai qu'on a prédit pour l'Afrique une pandémie cataclysmique, mais il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs choses qui ont permis à l'Afrique, jusqu'à ce jour, en tous les cas, de bien résister à la Covid. C'est le dernier continent qui a été atteint par l'épidémie. On a une densité de population hors des centres urbains qui est assez faible, qui permet justement d'avoir plus de distanciation sociale. Et surtout, on a une démographie avec une population jeune. On a une moyenne sur le continent d'âge qui est inférieure à 20 ans. On a plusieurs choses. On a beaucoup de vie en extérieur. Peu d'espace clos et il faut le voir aussi un continent qui est à l'écart des flux de populations internationaux. Donc finalement, toutes ces petites causes associées les unes aux autres font qu'aujourd'hui, l'Afrique résiste plutôt bien à la pandémie. D'autre part, elle a aussi l'habitude de gérer des épidémies et du coup, il y a une capacité à prendre les messages de sécurité sanitaire assez au sérieux.
Une habitude, effectivement, des épidémies. Alain Boinet, un commentaire ?
Oui, l'Afrique résiste et c'est une bonne nouvelle. Ceci étant dit, l'impact principal, ou en tout cas qui va se produire, qui s'est produit, c'est celui quand même, c'est sur l'économie et donc sur l'appauvrissement des populations qui, dans certains pays, sont déjà très pauvres. Et donc, c'est une grande partie de l'augmentation des populations qui ont besoin de secours humanitaires va se trouve en Afrique, pas seulement, mais pour une bonne part, de manière générale, en particulier sur la faim, mais pas seulement, parce qu'on voit bien que l'impact, il va être économique et social, et il va devenir humanitaire, il va remettre en cause beaucoup des progrès qui ont été réalisés dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement, comme dans le cadre des objectifs du développement durable. Et là, c'est vraiment un enjeu stratégique pour notre avenir collectif, si je puis dire.
Alors, Pierre Brunet, dans la première réponse à la première question, vous évoquiez l'effet ciseau auquel est aujourd'hui confronté l'humanitaire, avec d'une part explosion des besoins et puis diminution des moyens. Et vous évoquiez aussi une thématique plus large en ce qui concerne, on en a dit quelques mots, une politisation croissante de l'aide humanitaire. Avant cela, je le disais en introduction, introduction, l'assassinat en août dernier de 9 humanitaires de l'association ACT-AID. Est-ce qu'on est passé d'une époque où les équipes humanitaires étaient protégées par leur statut à un moment où les humanitaires sont ciblés pour ce qu'ils représentent? Est-ce qu'on peut affirmer que les humanitaires sont plus exposés au risque d'enlèvement, d'assassinat, et que l'on assiste finalement à une sorte de désacralisation de l'humanitaire?
Oui, je le crois. Alors, je vais développer ma réponse, mais je vais commencer par dire très simplement que je crois qu'il y a eu trois périodes à cet égard. Il y a eu la première période où effectivement les humanitaires bénéficiaient d'un statut et d'un respect de toutes les parties en conflit quand on agissait dans un pays en conflit, parce qu'il y avait ce statut, on était vraiment perçus comme les humanitaires neutres, indépendants, etc., qui allaient aider tout le monde. Et il y a eu ensuite une deuxième période où les humanitaires n'ont pas été plus protégés que les autres, et on entre maintenant dans une troisième période où les humanitaires sont très clairement ciblés et recherchés en tant qu'humanitaires et souvent en tant que représentation de la politique occidentale. Pour revenir sur la tragédie qu'a frappé le 9 août dernier les 7 membres d'ACT-AID, hein, pour le chauffeur nigérien, 4 françaises, 2 français, plus le président de l'association des guides de la réserve de Corée au Niger qui a été tué, c'est un traumatisme bien sûr pour ACT-AID, c'est un traumatisme pour l'humanitaire. S'agissant d'ACT-AID, c'est un traumatisme, il faut le rappeler, qui s'ajoute à d'autres. Rappelons qu'en septembre 2014, David Hens, qui était volontaire pour ACT-AID à l'époque en Syrie, à Raqqa, avait été décapité par Daesh à Raqqa. Rappelons également que cet été, dans l'état de Borno, au nord-est du Nigeria, 5 humanitaires ont été enlevés puis assassinés, des travailleurs humanitaires nigérians, dont un qui travaillait pour ACF. Donc il y a une claire montée des menaces. Si vous voulez, l'impunité et le respect dont jouissaient les humanitaires, c'est un peu une époque qui est révolue. Les humanitaires sont maintenant ciblés. On le constate d'ailleurs ces dernières semaines en Ituri, par exemple, où le nombre d'incidents visant les humanitaires a augmenté. ISWAP, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, a récemment annoncé qu'ils appelaient à cibler spécifiquement les humanitaires occidentaux. Alors, il faut bien comprendre aussi qu'une grande partie de cette dégradation tient aussi au fait que les donateurs et les dirigeants occidentaux et les responsables occidentaux ont de plus en plus tendance à vouloir politiser l'aide humanitaire, les acteurs humanitaires, et que cette politisation des acteurs humanitaires a des conséquences effectives et très concrètes sur leur sécurité sur le terrain. Et si vous me permettez de développer un peu cet aspect de la politisation...
Rapidement, pour terminer cette première partie d'émission, d'accord, on développera dans la deuxième partie, mais juste quelques secondes tout de même, Pierre Brunet, politisation, de quoi est-il question?
Alors, il y a trois aspects à cette politisation des humanitaires. Le premier aspect, c'est ce qu'on appelle le nexus, hein, le nexus humanitaire, développement, paix et sécurité. On demande aux humanitaires de participer aux solutions de sécurité et de paix, alors que c'est ni leur rôle, ni leur mandat, ni leur mission. Le deuxième aspect, c'est une politisation grandissante de l'accès humanitaire. Le troisième aspect, ce sont les menaces sur le droit humanitaire international qui, rappelons-le, découle directement des conventions de Genève, et notamment des protocoles additionnels des conventions de Genève, par les bailleurs institutionnels, les financeurs et les pays financeurs de l'aide humanitaire internationale, une remise en question des principes fondamentaux de l'aide humanitaire, la neutralité, l'impartialité et l'indépendance. Voilà, on développera ça en deuxième partie.
Merci Pierre Brunet, on vous retrouve avec Anne Sénéquier et Alain Boinet après le journal. À tout de suite. Thank you.
Vous souhaitez réécouter Géopolitique ? Rendez-vous sur RFI.fr. Géopolitique, Marie-France Chatin.
Quelle adaptation aux évolutions du monde pour l'humanitaire ? Nous retrouvons nos invités par téléphone. Alain Boinet, fondateur de l'association humanitaire Solidarité Internationale, directeur du site défishumanitaires.com, et en studio Pierre Brunet, vice-président de Solidarité Internationale et écrivain, auteur, pour ceux qui nous intéressent aujourd'hui, d'Aider plus loin, 40 ans de crise, 40 ans d'action, qui retrace les 4 décennies d'action humanitaire de Solidarité Internationale, sorti récemment aux éditions Autrement. Alain Boinet, on a quitté la première partie de l'émission en évoquant le fait que de plus en plus les humanitaires aujourd'hui étaient ciblés pour ce qu'ils représentent. Est-ce qu'on peut affirmer que les humanitaires sont plus exposés au risque d'enlèvement, d'assassinat, et que l'on assiste à une sorte de désacralisation de l'humanitaire aujourd'hui ?
Alors, d'abord, pour revenir sur nos amis d'ACTED, ces 7 membres d'ACTED qui ont été assassinés le 9 août dernier, il faut dire que, bien sûr, c'est un drame. Rappeler que cet assassinat a été revendiqué par Daesh, et dire néanmoins que la mort de 7 personnes, 8, au même moment, et heureusement, j'irai un événement absolument exceptionnel, c'est vraiment très rare qu'autant de gens soient tués au même moment. Après, je pense que la principale explication sur l'augmentation du nombre de victimes humanitaires, que ce soit des personnes qui sont blessées, qui sont enlevées ou qui sont tuées, elle est principalement due, c'est l'explication principale quand on travaille sur les statistiques qui existent depuis 1997, elle est principalement due à l'augmentation du nombre d'humanitaires intervenant dans le monde. En fait, en 1997, vous aviez environ 136 000 personnes intervenant dans le monde pour l'aide humanitaire, et en 2019, vous aviez 570 000. Et en fait, moi j'ai eu l'occasion de faire une étude sur ce sujet qui montre que, et c'est corroboré par une étude également qu'a fait Médecins Sans Frontières sur ce sujet, c'est qu'en fait on a en moyenne par an entre 40 et 60 victimes pour 100 000 humanitaires. Et l'année dernière, enfin en 2019, on en a eu 48. En fait, il faut rappeler d'ailleurs que 90% de ces humanitaires sont des nationaux, hein, quand on distingue les nationaux des internationaux. En revanche, probablement que l'aide humanitaire n'est plus perçue aujourd'hui comme elle était il y a 40 ans, mais elle a pris de telles proportions, elle a tellement augmenté à la fois en personnel, mais aussi en moyens, que la relation, évidemment, s'en trouve différée. Ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui aussi, les humanitaires se sont professionnalisés, alors qu'au début, il s'agissait d'engagements bénévoles. Et au fond, même si la préparation au départ en mission, c'est également très professionnalisé, je crains que beaucoup de jeunes qui s'engagent dans l'aide humanitaire ne perçoivent pas tout le temps que quand on part dans un pays en guerre, il y a vraiment des risques, et que l'aide humanitaire, elle induit des risques, et que si on part faire de l'aide humanitaire, il ne faut pas seulement accepter les risques, mais il faut aussi s'y préparer. Et là, je crois que des ONG, les organisations humanitaires gagneraient beaucoup à développer une préparation au départ liée au risque, spécifiquement au risque. Et je crois d'ailleurs que les partenaires institutionnels devraient, dans le soutien financier qu'ils appellent au programme, inclure une partie préparation pour faire face à l'imprévu sur le terrain. Ce que je veux aussi rappeler quand même, c'est qu'on parle de la sécurité des humanitaires, mais l'insécurité principale, elle est d'abord pour les populations victimes d'un conflit, d'une catastrophe. Et deuxième point, l'insécurité, c'est bien sûr les blessés, les morts, les personnes enlevées, mais c'est aussi l'insécurité alimentaire, c'est aussi l'insécurité qui est liée au non-accès à l'eau potable, à l'hygiène, l'assainissement, et tout ça provoque également beaucoup de victimes dans le monde.
Donc, professionnalisation de l'humanitaire. Pierre Brunet, au Moyen-Orient, au Sahel et ailleurs, l'humanitaire doit répondre à une demande croissante, vous l'évoquiez précédemment, de participer aux solutions de paix. Comment comprendre qu'il puisse y avoir le moindre débat sur cette question qui vous ferait entrer dans des questions politiques ? J'aimerais connaître votre position, votre avis là-dessus.
Alors, notre position est claire. Hein. L'humanitaire agit au nom d'une commune humanité avec des êtres humains en détresse. C'est la base de l'humanitaire. Il y a une seule espèce humaine. Donc, nous sommes solidaires au sens presque physique et biologique du terme avec nos frères humains. Et c'est au titre de cette solidarité humaine que nous agissons. toujours en appliquant et en mettant en œuvre et en mettant en action les principes fondamentaux de l'humanitaire. L'humanité, bien sûr, mais la neutralité politique, l'impartialité des secours et l'indépendance de l'action. Mmh. Et ces principes ont tendance à être remis de plus en plus en question par des gouvernements, parfois même par des bailleurs ou des financeurs qui auraient effectivement la volonté de faire jouer à l'humanitaire un rôle qui n'est pas le sien, qui est celui d'auxiliaire dans le cadre de stratégies visant à rétablir la sécurité et la paix dans telle ou telle partie du monde en conflit. Il faut le rappeler, il faut le dire très clairement, très fermement, ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre mission, ce n'est pas notre mandat. Mais ce n'est pas le seul aspect, pour revenir à cette question de la politisation de l'aide humanitaire, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la politisation croissante de l'accès humanitaire. On a pris l'exemple du Tigré en Éthiopie. On peut prendre un deuxième exemple. Cet été, deux pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie et la Chine, ont opposé leur veto à la prolongation de l'ouverture du deuxième accès humanitaire, celui de Bab al-Salawa, si j'ai bonne mémoire, au nord-ouest de la Syrie. Donc il n'y a plus qu'un seul accès humanitaire, pour des raisons politique, complexifiant et rendant encore ainsi plus difficile l'action des humanitaires qui arrivent encore à intervenir dans cette zone de Syrie. Et le troisième aspect, qui est un aspect extrêmement préoccupant, c'est la remise totalement en question des principes fondamentaux de l'aide humanitaire, notamment l'impartialité du secours et l'indépendance de l'action, par les bailleurs institutionnels, les financeurs internationaux ou nationaux de l'aide humanitaire, au nom de ce qu'on appelle le COTER, c'est-à-dire le régime de sanctions et des lois antiterroristes, la loi César et d'autres. On assiste à une volonté affichée, à un commencement de mise en œuvre, de volonté de contrôler, d'empêcher, d'entraver, de cribler l'action des organisations humanitaires sur le terrain, en contrôlant leur mode d'action, en criblant, en vérifiant le membre des personnels des ONG sur le terrain, en contrôlant leurs transferts financiers, bancaires. On voit des banques aujourd'hui, qui sont les banques des ONG, qui font ce qu'on appelle du de-risking, c'est-à-dire qu'elles enlèvent les risques et elles ferment du jour au lendemain, sans prévenir les comptes bancaires des ONG. Vous imaginez les problèmes que ça pose ensuite pour faire parvenir de la trésorerie sur le terrain, tout simplement parce qu'elles ont peur des sanctions, notamment des sanctions américaines, où il y a une volonté de criblage, de contrôle des gens à qui on parle sur le terrain, en prétendant empêcher telle ou telle ONG ou telle organisation humanitaire à parler avec telle ou telle partie au conflit, parce que telle ou telle partie au conflit serait terroriste. Mais il faut bien comprendre que dans des contextes comme par exemple la Syrie, et il y en a d'autres, tout groupe armé est toujours le terroriste de quelqu'un. Donc à ce moment-là, si on commence à appliquer ce principe, les organisations humanitaires ne seront plus que des pièces sur un échiquier, seront dans un camp et ne parleront plus qu'à telle partie au conflit. Et à ce moment-là, on rentre dans une identification des ONG humanitaires, des organisations humanitaires comme partie au conflit, auxiliaire de telle ou telle partie au conflit, et des incidents de sécurité deviennent extrêmement graves et préoccupants sur le terrain. La volonté de criblage et de contrôle des ONG va jusqu'à aujourd'hui, la volonté affichée de cribler les partenaires des ONG sur le terrain, les fournisseurs des ONG sur le terrain, le personnel des ONG sur le terrain, et maintenant les bénéficiaires des ONG sur le terrain vont peut-être être criblés, et on parle même de partage des listes de ces bénéficiaires avec les bailleurs de fonds pour qu'ils les contrôlent. Donc on voit bien qu'on arrive là à un point qui est un point limite, où c'est une remise en question absolue des principes fondamentaux de l'aide humanitaire. Et on ne peut pas, si vous voulez, aboutir à une situation qui est presque schizophrénique, où vous avez des gouvernements qui financent des ONG pour intervenir dans un pays comme par exemple la Syrie, et en même temps, au nom des régimes de sanctions et des lois anti-terroristes, entravent, empêchent, contrôlent et veulent empêcher en fait l'action de ces mêmes ONG qu'elles financent sur le terrain. Donc nous, ce qu'on demande, c'est très très clair, c'est que les organisations humanitaires soient exemptées, une exemption des organisations humanitaires de ces régimes et sanctions anti-terroristes.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Alors, je demanderai bien sûr à Alain Boinet ce qu'il en pense. On vous a récupéré, Anne Sénéquier. C'est vrai que la pandémie et les précautions sanitaires nous imposent de n'avoir qu'un seul invité en studio, les autres étant au téléphone. Et on a connu là les aléas de nos modes de communication. Je rappelle, Anne Sénéquier, que vous êtes médecin et co-directrice de l'Observatoire de la santé à l'IRIS. Un commentaire sur ce que vient de dire Pierre Brunet sur cette politisation de l'humanitaire aujourd'hui et les risques finalement que l'on fait de plus en plus courir aux personnes dont la vocation est de porter aide à ceux qui en ont besoin.
C'est vrai qu'il y a cette politisation et parfois l'humanitaire est même considéré comme un outil finalement par les pays hôtes où on a tous en tête ce qui s'est passé en 2017 au Sud-Soudan où la famine a été déclarée par l'ONU et trois jours plus tard les visas pour expatriés ont été multipliés par 10. Donc l'objectif clairement établi était justement de profiter de la manne financière qu'allaient amener justement les expatriés sur le terrain. Maintenant, j'aimerais aussi prendre un petit peu de recul par rapport à ça. C'est vrai que la pandémie a généré des situations de vulnérabilité sans précédent, mais il faut se souvenir quand même que l'aide publique au développement, c'est 150 milliards de dollars par an. Par contre, à côté de ça, on a les fonds qui sont amenés par les diasporas, qui sont égaux à 550 milliards de dollars par an, et les fonds d'investissement direct étrangers, 510 milliards de dollars par an. Donc on voit qu'il y a une diversité d'acteurs très importants dans le domaine du développement qui est bien plus large que les ONG ou que les États eux-mêmes, et que ça serait intéressant justement d'avoir un peu une approche globale et transversale de tout ça. Et c'est vrai que dans les crises telles que l'on la vit aujourd'hui, et les crise combinée, j'ai envie de dire, parce qu'on parlait de la pandémie en Afrique tout à l'heure, et notre invité l'a très bien dit que finalement on est aussi dans une crise sociale, alimentaire et économique, et du coup, dans ces crises, les diasporas sont essentielles justement pour la résilience des populations sur le terrain, et finalement on aurait peut-être un intérêt à créer une coordination dans toutes ces façon de pouvoir aider sur le terrain.
Alain Boinet.
Bon, une réflexion sur ce qui vient d'être dit. D'abord, la politisation dans l'aide humanitaire, c'est pas un phénomène nouveau. Au fond, cette politisation, elle a existé depuis le début. Qu'on se rappelle l'intervention de cette équipe du CCR avec Bernard Kouchner au Biafra. Et au fond, ça n'a jamais cessé, puisque par définition, une guerre est un processus politique, ou que la guerre, c'est un autre moyen de faire de la politique. Donc ça n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le contexte international, qui évidemment a un impact. C'est bien sûr cette, comment peut-on dire, démondialisation, qui par conséquence renvoie à une réaffirmation des États, la nature ayant horreur du vide. Et heureusement qu'il y a des États pour assumer les responsabilités normalement qui sont les siennes au service de leurs concitoyens. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que effectivement, il y a un certain nombre d'États qui sont fragiles, faillis, qui pourraient très bien basculer. Et il y a une grande inquiétude de la part, appelons ça, de la communauté internationale, qui a du mal à y faire face. Quand on voit la situation au Sahel et au Mali, on voit bien de quoi on parle. Quand on voit la situation aujourd'hui en Afghanistan, après 20 ans d'engagement américain, on voit bien de quoi on parle. Et donc, au fond, leur raisonnement consiste à dire il faut que l'on, l'union faisant la force, il faut que l'on mobilise l'ensemble des moyens nécessaires pour arriver à la paix. Alors, les humanitaires sont pour la paix, indiscutablement, mais effectivement, ils n'en ont ni le mandat, ni la légitimité. Et d'ailleurs, c'est aux États de faire la paix. C'est eux qui ont la responsabilité et les capacités. Alors, pour revenir sur ce que disait Pierre Brunet, nous, notre mission, c'est de secourir des personne en danger, c'est de sauver des vies dans un premier temps et dans un deuxième temps de les accompagner de manière à ce qu'elles puissent sortir du conflit quand celui-ci se calme ou s'arrête dans le cadre d'un processus de paix, de manière à ce qu'elles puissent reprendre leur existence et à nouveau repartir sur des processus de développement. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est ce que nous appelons l'espace humanitaire, donc la possibilité d'accéder aux personnes dont la vie est en danger et sur la base de l'impartialité. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, on aide les personnes sur la base des besoins et sur aucun autre critère. Donc c'est ce qui nécessite de notre part une grande indépendance. Et d'ailleurs, ce statut des acteurs humanitaires dans le monde est reconnu à la fois par le droit international humanitaire, les conventions de Genève, les protocoles additionnels, mais aussi par le consensus européen sur l'action humanitaire qui a été signé par le Parlement européen, par les États membres et par la Commission européenne. Et donc, cette indépendance au service de l'impartialité des secours pour l'accès aux victimes, elle est reconnue par les institutions internationales. Donc, il est clair que nous, on agit dans le cadre de l'urgence, dans une perspective de reprise du développement, donc ce lien du double nexus, on veut bien le faire, avec la paix, ces différences qui ne nous empêchent pas, tout de même, sur le terrain, d'agir avec des mairies, des collectivités, des représentants des populations, parce qu'on agit quand même dans des sociétés qui sont structurées d'une manière ou d'une autre, et donc d'agir avec ces représentants de ces populations pour répondre à leurs besoins. Et c'est vrai qu'en répondant à leurs besoins, parfois, on calme la situation. Quand vous êtes à Kidal, dans le Nord Mali, et que vous amenez tout à la fois aux éleveurs et aux agriculteurs pour simplifier, eh bien vous réduisez les tensions qui existent entre eux dès lors qu'il n'y a pas assez d'eau pour les uns et les autres. C'est un effet collatéral qui est tout de même très très positif. Je voudrais terminer, puisque Pierre a parlé de ces questions sur disons le régime des sanctions et les lois antiterroristes, que lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, en septembre dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, a déclaré qu'avec les ONG françaises, je lis, avec nos partenaires internationaux, nous construisons une initiative pour assurer l'effectivité du droit international, la protection du personnel humanitaire et la lutte contre l'impunité. Et il a ajouté, la neutralité de l'action humanitaire doit être respectée et sa criminalisation endiguée. Nous avons eu récemment des réunions à l'Élysée à ce sujet. Donc le président de la République, le 17 décembre, lors de la CNH, annoncera une initiative qui impliquera un certain nombre d'États sur des positions qui ont été préparées avec les ONG. Je ne sais pas si elles répondront à la totalité de nos attentes. En tout cas, pour nous, ce que nous demandons, c'est une exemption à l'égard de l'application des lois antiterroristes. C'est le droit international humanitaire qui doit s'appliquer, premier point, à l'égard des transferts bancaires et à l'égard de ce qu'on appelle le criblage, et notamment des bénéficiaires que nous ne réaliserons jamais, parce que c'est contraire à toute éthique humanitaire et au DIH.
Alors, on a bien compris, volonté de ne pas perdre la reconnaissance d'acteurs neutres dont bénéficient les humanitaires et la capacité à accéder à l'ensemble des populations qui ont besoin d'aide. Alain Boinet évoquait à l'instant la CNH, qui est la Conférence nationale de l'humanitaire, dont la 5e édition se tiendra prochainement à Paris. Pierre Brunet, une sorte de grand-messe dont l'objet est de faire le point sur l'action humanitaire aujourd'hui, ses défis, et on l'a bien compris, finalement, l'humanitaire est aujourd'hui confronté à une multiplicité d'aspects qui rendent l'action humanitaire de plus en plus difficile et véritable défi. On l'a évoqué, les menaces contre les humanitaires, les lois contre le terrorisme qui ont des impacts finalement inattendus sur l'humanitaire. Rapidement, quelles attentes quant à cette Conférence nationale de l'humanitaire?
Alors, Alain pourrait en parler beaucoup mieux que moi parce que il va y participer directement. Il y aura un certain nombre de grands thèmes lors de cette 5e conférence nationale humanitaire, notamment le droit international humanitaire, qui est justement remet en question et attaqué le changement climatique, la question du nexus humanitaire, développement et sécurité, et la question de la protection, de l'impunité, de la criminalisation des ONG. Effectivement, ce qu'on attend, c'est une prise de conscience que il y a des choses à arrêter, qu'on peut pas continuer comme ça, qu'il faut revenir au respect du droit international humanitaire, tout simplement, au respect des principes fondamentaux de l'humanitaire, que je répète encore une fois, neutralité politique, impartialité des secours, indépendance de l'action, au respect de l'accès humanitaire pour toutes les organisations humanitaires. Pour revenir sur ce que disait Alain quant au régime de sanctions et des lois antiterroristes, l'ONU, fin 2019, si j'ai bonne mémoire, a reconnu que le régime de sanctions et des lois antiterroristes était une menace sur l'action des organisations humanitaires internationales.
Merci Pierre Brunet. Je rappelle que vous êtes vice-président de Solidarité Internationale et écrivain, co-auteur pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, d'Aider plus loin, 40 ans de crise, 40 ans d'action qui retrace les 4 décennies d'action humanitaire de Solidarité Internationale aux éditions Autrement. Merci aussi à Anne Sénéquier, médecin et co-directrice de l'Observatoire de la Santé, à l'IRIS, et à Alain Boinet, fondateur de l'association humanitaire Solidarité Internationale, dont je rappelle le site défishumanitaires.com. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À